25 mai 2016. C'est très important d'être chrétien de nos jours, comme à toutes les époques d'ailleurs. Sans cela, vous n'avez pas de but dans la vie. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, ni où vous allez. Actuellement, la grande tribulation approche et nous devrons avoir la protection de Dieu au cours des prochaines années. Si nous ne l'avons pas, nous vivrons les moments les plus terribles de l'histoire humaine. Jésus a dit qu'il n'y a jamais eu un temps comme celui-là et qu'il n'y en aura jamais. La grande perspective, c'est que pas seulement nous devons échapper à la grande détresse, la grande perspective, c'est l'accomplissement de la destinée humaine. Dieu est en train de se reproduire. Il a fait les animaux, c'est très bon. Dieu a fait les plantes et les animaux qui se reproduisent selon leur espèce. Puis il est allé droit au but. Il a créé l'homme à son image. Il n'a pas dit « selon l'espèce divine », mais c'est ce que cela implique. Dieu se reproduit à travers nous, selon sa propre espèce. Les humains sont les seules créatures dotées de compréhension. Nous avons une imagination créative pour faire ce qu'aucun être peut faire. Nous avons envoyé un homme sur la Lune. Les chimpanzés, comme les autres créatures supposément intelligentes, ne peuvent faire rien de semblable. Nous avons des capacités comme celles de Dieu, car nous sommes faits à son image. Et Dieu nous fait grandir pour que nous devenions comme le Christ, afin de faire de nous des enfants à part entière qui l'aideront à régner sur le soleil, la lune, les étoiles et sur tout le cosmos qu'il a l'intention d'aménager plus tard comme une partie de son royaume. L'homme a un potentiel immense, celui de devenir fils de Dieu à part entière dans son royaume éternel. Il n'y a rien de comparable. C'est tellement grand. Chaleureuses salutations de fête à vous tous autour du monde. Nous espérons que vous passez tous une merveilleuse fête là où vous êtes. Comme la plupart d'entre vous le savent, le Dr. Roderick C. Meredith est décédé plus tôt cette année. En 2008, il a subi un AVC qui l'a partiellement handicapé pour le reste de sa vie. Mais il a poursuivi le combat. Puis, au début de 2017, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Il s'est éteint le 18 mai 2017 et attend maintenant la résurrection. Ma vie a été directement et puissamment affectée par le Dr. Meredith. Il était mon professeur, mon collègue, mon beau-frère et mon ami. Au début de ma conversion, ses écrits m'ont influencé. En 1959, j'enseignais une classe de niveau 8 à l'école du dimanche à Meriden, au Connecticut. Le matériel utilisé dans le cours laissait à désirer. J'ai alors commencé à utiliser la revue La Pure Vérité, surtout les écrits de M. Meredith, sur les 10 commandements, comme document de base. En donnant ce cours, je me suis mis à comprendre la vérité de Dieu d'une manière totalement différente, ce qui m'a donné le goût d'étudier à l'Ambassadeur College à Pasadena. Le Dr. Meredith a touché la vie de chacun d'entre nous, directement ou indirectement. Ce que plusieurs ne réalisent pas, c'est qu'il a servi dans l'œuvre de Dieu durant plus de 64 années. C'est encore plus longtemps que M. Armstrong. Ces deux hommes étaient des géants dans l'Église de Dieu. Quand nous considérons l'apport de M. Meredith à l'Église, nous voyons qu'il prend différentes formes. Il était une voix forte qui incitait les étudiants à une bonne conduite morale sur les trois campus de l'Ambassadeur College où il a servi. Il nous a donné une éducation biblique complète dans le cours de Bible destiné aux étudiants de première année, lequel couvrait les quatre évangiles et le livre des Actes. Il a aussi préparé et enseigné un cours sur les épîtres de Paul. C'est difficile de quantifier l'importance de sa contribution à la formation des ministres de l'Église du Dieu vivant ou d'autres groupes de l'Église de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous réalisent que Dieu a utilisé M. Herbert W. Armstrong d'une manière très spéciale à la fin de cet âge, mais après sa mort, Satan a essayé de faire disparaître la vérité. C'est alors que le Christ a guidé le Dr. Meredith pour réparer la brèche et ranimer l'œuvre que Dieu avait accomplie en utilisant M. Armstrong. Le Dr. Meredith n'était pas parfait, personne ne l'est, mais son cœur était sincère. Je me souviens encore que durant mes années au Collège Ambassadeur, personne ne doutait du fait qu'il croyait ce qu'il enseignait et s'efforçait vigoureusement de s'y conformer. Même quelqu'un qui a plus tard critiqué les Églises de Dieu a écrit qu'il voyait le Dr. Meredith comme différent de tous les autres. Tout en se souvenant du Dr. Meredith, nous sommes ici pour observer la fête des tabernacles. Une fête qu'il a observée et expliquée durant des décennies. Cette fête préfigure une époque où toutes les nations sur la terre apprendront la voie de vie divine. Nous sommes les pionniers de cette voie de vie. À propos de ce temps qui approche, nous lisons dans Zacharie 14, verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Ésaïe aussi a prophétisé, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Ésaïe 2, verset 2. Quel temps merveilleux ce sera quand ces prophéties s'accompliront. Oui, nous espérons l'avènement d'un monde nouveau, le royaume de Dieu, un temps de paix, de prospérité et d'harmonie comme jamais auparavant. Une époque où Jésus-Christ lui-même régnera sur la terre depuis Jérusalem et où la voie divine prévaudra. Nous avons maintenant l'occasion d'être des pionniers de cette voie de vie et nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir placé sous nos yeux un exemple à suivre pour aller de l'avant vers son royaume. Le docteur Meredith, comme M. Armstrong avant lui, a terminé sa course. Ils étaient des hommes remarquables. Ils étaient des pionniers philadelphiens. Ils ont livré un bon combat. Ils ont gardé la foi. Il nous incombe maintenant de faire de même. Nous aussi, nous devons, avec la puissance de Dieu, livrer le bon combat, garder la foi et terminer la course. À la lumière de ces choses, le film de la fête, cette année, nous donnera un aperçu de l'histoire moderne de l'œuvre de Dieu, telle que vue par le Dr. Roderick C. Meredith. En 2011, l'Église du Dieu vivant avait produit pour la fête un film intitulé « Pionniers philadelphiens ». Afin d'honorer la mémoire et le travail du Dr. Meredith, nous avons choisi de refaire ce film en y ajoutant de nouvelles séquences et des photos. Nous espérons que vous serez inspirés en entendant quelqu'un qui a travaillé dans l'œuvre durant des décennies décrire comment le Christ est intervenu pour guider et diriger son œuvre. Avec l'aide de Dieu et guidé par Jésus-Christ, nous pouvons tous aller de l'avant avec zèle et puissance en tant que pionniers de Dieu et de sa voie de vie. Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter pionniers philadelphiens, en avant vers le royaume. À l'automne de 1926, Mme Loma D. Armstrong, épouse de Herbert W. Armstrong, lança un défi à ce dernier au sujet du sabbat et de la théorie de l'évolution. Après une étude approfondie de 6 mois, M. Armstrong devint convaincu que le grand courant du christianisme moderne n'enseigne pas vraiment ce que dit la Bible. Après une série de mésaventures humiliantes dans le domaine des affaires et de la publicité, en 1931, Dieu commença à utiliser M. Armstrong pour prêcher le vrai évangile de Jésus-Christ. Sa puissante voix fut d'abord entendue sur les ondes radiophoniques à Eugene, en Oregon. Avec le temps, ses émissions ont couvert tous les États-Unis pour s'étendre ensuite dans les différentes parties du monde. Au milieu des années 40, un jeune homme qui cherchait les réponses aux questions fondamentales de l'existence humaine a entendu ses émissions à partir de Joplin au Missouri, après en avoir été informé par son oncle, Dr. Paul Meredith. Les premières années. J'ai pour la première fois entendu parler de la vérité de Dieu durant l'hiver de 1944-1945. Je m'en souviens très bien parce que la Deuxième Guerre mondiale se poursuivait. L'Allemagne était frappée de nuit par les bombardiers anglais équipés de radars, alors que les avions américains entraient en action le jour. Déjà, M. Armstrong annonçait que l'Allemagne, même si elle était alors appauvrie par ses bombardements, allait se relever pour devenir éventuellement la force dirigeante des États-Unis d'Europe. Au cours de ces années, mon ami Jimmy Mallett est mort des suites d'un accident de lutte. Il a eu le cou brisé. Nous avions lutté tous les deux des centaines d'heures sur l'herbe en tant que jeunes garçons, s'entraînant à développer toutes sortes de prises et de manœuvres, mais sans malice, comme deux petits oursons. Sa mort m'a littéralement foudroyé. Quand son corps a été mis en terre, j'ai voulu comprendre pourquoi Dieu l'avait laissé mourir. L'Église méthodiste où j'avais grandi ne le comprenait pas. J'ai commencé à réaliser que M. Armstrong comprenait, lui. Mon oncle Paul et moi avions commencé à écouter les émissions de M. Armstrong ensemble. Nous nous sommes rendus compte que les autres prédicateurs à la radio ne comprenaient pas. Nous nous sommes procurés divers commentaires bibliques ainsi que plusieurs documents religieux publiés par différents groupes protestants, mais ça ne répondait pas non plus à nos questions. C'était vide de sens. Ça se résumait à dire simplement « Aimez Jésus, soyez bon », mais ils ne comprenaient pas le but de l'existence. Juste avant de venir à l'Église, j'ai entendu prêcher en personne un jeune évangéliste pour Christ. Il était très zélé et parlait très chaleureusement de Jésus, de l'Évangile, du précieux Évangile. À ce moment, je me préparais à aller à l'ambassadeur collège. Ce jeune homme se montrait très sentimental en parlant du sang précieux du Christ et de l'Évangile précieux. Après que la plupart des gens eurent quitté, je suis allé vers le jeune homme et lui ai demandé « Est-ce tout? Est-ce seulement au sujet de Jésus? » Et il a répondu « Oui, c'est ça, c'est ça. » Il était embarrassé. Je lui ai dit que j'écoutais les émissions de M. Armstrong. Il connaissait les émissions et il était sur la défensive. Il a dit « M. Armstrong est très enthousiaste et sincère, je pense. » Or, on peut être totalement sincère, mais totalement dans l'erreur. Puis il m'a regardé ainsi et je me suis dit « Ouais, j'y ai déjà pensé. » Et un peu plus tard, j'ai réalisé que lui était totalement sincère, mais totalement dans l'erreur, alors que M. Armstrong était sincère et il avait la vérité de la Bible. C'est d'abord la prophétie qui a attiré mon attention dans les émissions, parce que ça démontrait que Dieu était réel. Il n'y avait rien de sentimental là-dedans. C'était des choses pouvant se vérifier dans les événements mondiaux. Quand je suis venu au collège et que j'ai commencé à entendre les sermons de M. Armstrong en personne, j'ai compris alors plus profondément. Il parlait de Jésus-Christ comme étant notre sauveur, disant que nous devons nous repentir de transgresser les lois de Dieu. Puis il a donné un puissant sermon peu de temps après mon arrivée au sujet du vrai sabbat de Dieu. Je n'avais rien compris de cela auparavant et je l'ai entendu prouver clairement par les Écritures que le septième jour de la semaine est le sabbat et qu'il s'agit d'un signe de première importance entre Dieu et son peuple. Quand j'ai été appelé, la plupart des membres de ma famille ne comprenaient pas et ils étaient tout simplement bouleversés. Ma mère était profondément peinée parce que c'était extrêmement différent, voire même étrange, comparé à la religion méthodiste pratiquée par elle et toutes ses amies. Elle devint très malade. Plus tard, elle a réalisé que c'était dû à l'angoisse que lui causait la religion de son fils. Je savais que ça la faisait souffrir. Et ça m'affectait aussi de la voir souffrir ainsi. Mais mon père, lui, a commencé à prêter l'oreille et il s'est abonné à la pure vérité. Mon père a réalisé que j'apprenais des choses très spéciales. Plus tard, il a dit, « Un jour, il faudra que je sois baptisé, vraiment baptisé. Et je veux que ce soit l'un de vous du collège qui le fasse. Je sais que vous connaissez la vérité. Je le comprends. Je ne suis pas encore prêt, mais un jour, je le serai. » Il est mort avant que ça se produise. Dieu ne l'appelait pas encore, mais il respectait la vérité que M. Armstrong nous avait enseignée. Ma mère et mon père étaient tous les deux diplômés de l'université méthodiste Baker à l'ouest de Kansas City. Mon père était comptable et ma mère a enseigné l'histoire à différents niveaux avant d'être mariés. Les deux étaient éduqués et avaient beaucoup d'idéal. Quant à ma vieille grand-mère méthodiste, c'était une personne très sincère qui me lisait la Bible. Je commençais alors à réaliser qu'il y avait dans la Bible beaucoup plus de choses que celles que j'apprenais à l'école biblique du dimanche. Je me souviens être entré dans sa chambre alors qu'elle priait, agenouillée à côté de son lit, ses longs cheveux blancs descendant tout le long de son dos. J'étais impressionné de l'avoir ainsi prié avant de se mettre au lit pour la nuit. Je l'aimais et j'ai beaucoup appris d'elle. Mon père m'a donné des gants de boxe quand j'étais encore petit. Il m'a appris à frapper sur un ballon d'entraînement. Ça bouge très vite. Comme ceci, j'ai donc appris à boxer très jeune. Et plus tard, j'ai remporté à deux reprises le championnat des gants dorés dans ma catégorie de poids à Joplin, au Missouri. Puis, quand j'étudiais au niveau secondaire, je me souviens d'une partie de basketball mémorable. Nous étions à la mi-temps de la partie finale d'un tournoi. L'équipe adverse était en avance dans le pointage. En remontant du vestiaire pour aller terminer le match, John Ivy et moi étions les derniers. Nous
nous sommes regardés avec curiosité. Nous étions les derniers à sortir de là. Et je lui ai demandé, « John, pourquoi es-tu resté en arrière? » Et il a répondu, « Je priais. » Ça m'a fait tout drôle. Et je lui ai dit, « Je priais moi aussi. » Et soudainement, Dieu nous a aidés dans la partie et nous avons commencé à remonter la pente. John a marqué plusieurs points, beaucoup plus que moi. C'était le meilleur joueur de l'équipe. Il était très grand. Mais Dieu m'a donné de marquer le dernier but, le but gagnant. J'ai lancé le ballon comme on lance une balle. Et, chose étrange, il est entré directement dans le panier, juste avant que le sifflet ne mette fin à la partie. Dieu nous a aidés à gagner. Pour moi, c'était très évident que c'était une prière répondue. Plusieurs événements semblables me sont arrivés où Dieu m'a montré qu'il était réel, bien réel, et chaque fois j'en fus encouragé. Dieu est réel. Par ailleurs, j'ai été champion de mon collège 3 années consécutives comme coureur du 1000. J'ai appris la persévérance. Il faut tenir, ne pas abandonner. Ça m'a aidé. Un coureur sur une telle distance doit continuer jusqu'à la fin. Il ne suffit pas de donner un seul effort et c'est fini. Il faut vous pousser au maximum, même quand vous êtes très fatigué à l'extrême. En approchant le dernier droit, vous êtes parfois exténué, presque à bout. Puis vous entendez le coup de pistolet annonçant le dernier droit de la course. Cela produit en vous un regain d'adrénaline qui vous aide à poursuivre la course. Il vous faut aussi beaucoup de volonté. Ce n'est pas seulement une question d'habileté, c'est une question de force, de volonté. N'abandonnez jamais. C'est encore là quelque chose que M. Armstrong nous a enseigné à partir de ce que dit la Bible. N'abandonnez jamais. Pasadena. Je suis venu au Collège Ambassadeur parce que j'avais écouté les émissions et que j'avais réalisé qu'il me fallait trouver le sens de la vie. Je travaillais alors près de Boise, en Idaho, à la construction d'un barrage faisant partie d'un projet gouvernemental. J'ai pris l'autobus et suis allé habiter chez mon oncle, Dr. C. Paul Meredith et son épouse, durant les premières semaines. Il m'a guidé. Il a payé les frais de ma première année au Collège Ambassadeur. C'était un homme réfléchi et sensible. Il avait consacré des milliers d'heures à approfondir la vérité et à étudier avec soin toutes les notes qu'il avait prises à partir des exposés de M. Armstrong durant plusieurs années, même avant de venir au Collège Ambassadeur. C'est lui qui a d'ailleurs produit notre premier cours de Bible par correspondance. Un homme sérieux, très éduqué et très dévoué. Puis, je suis allé habiter à la résidence Mayfair, la belle résidence d'un ex-millionnaire que M. Armstrong avait acheté à très bas prix. C'était devenu une maison de chambre et nous avions commencé à la rénover. Les hommes habitaient, eux, au 3e étage et la seule femme du groupe, Betty Bates, habitait au rez-de-chaussée. Au 2e étage habitaient des dames âgées de 70, 80 ans et plus. À mesure qu'elles ont quitté pour aller dans des résidences pour gens âgés ou parce qu'elles sont décédées, les étudiants les ont remplacées. Lorsque je suis arrivé sur le campus, je suis allé voir Mme Esther Holson, qui était chargée, elle, de recevoir et d'ouvrir le courrier, puis de mettre à part l'argent et les chèques que les gens envoyaient. Je lui ai demandé, « Où va l'argent? Qui compte l'argent? Qui l'apporte à la banque? Est-ce que ça va à M. Armstrong? » J'ai fait mes recherches pour m'assurer qu'il ne convoitait pas l'argent, que l'argent n'était pas son but. Plusieurs années plus tard, M. Armstrong m'en a parlé en riant et en disant, « J'ai entendu dire que vous avez fait des recherches sur moi. J'en ai pas été offusqué. Nous n'avons rien à cacher. » C'est vrai que j'ai vérifié par moi-même et je lui ai aussi posé des questions sagaces et subtiles. Je voulais vraiment prouver les choses concernant M. Armstrong et ses enseignements. J'ai ainsi réalisé que j'avais enfin trouvé la perle de grand prix, pour ainsi dire. J'avais un grand ami du nom de Jimmy Porter, un jeune homme très intelligent, qui est devenu plus tard le président de l'association APC de tout le Missouri. Il connaissait la frustration que j'avais éprouvée au cours de nos 2 dernières années d'études ensemble quand j'essayais de comprendre le but de la vie. Après 2 ans au Collège Ambassadeur, je suis retourné chez moi pour les vacances d'été. Il m'a alors dit, « Rod, quoi que ce soit que tu cherchais, tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Tu as une paix d'esprit. » J'ai répondu, « Oui, je l'ai trouvé. » Il le sentait. Il ne comprenait pas, mais il percevait clairement que j'avais trouvé ce que je cherchais. L'année où je suis venu au Collège Ambassadeur, il n'y avait que 12 étudiants. La première année du collège, il n'y avait eu que 4 étudiants. Herman Hay, Raymond Cole, Richard Armstrong et Betty Bates. La deuxième année, Raymond McNair, son frère Marion et Kenneth Herman se sont ajoutés. Pour la troisième année, mon oncle, le Dr. C. Paul Meredith, moi-même et 3 autres sommes venus au collège, pour un total de 12 étudiants. Mais ne comptant toujours qu'une seule femme, Betty Bates. Nous avons tous fréquenté Betty, d'ailleurs. À tour de rôle, nous allions prendre une marche avec elle ou l'invitions pour une sortie, mais seulement comme une petite sœur. Elle était charmante, mais aucun de nous n'est tombé en amour avec elle. Le vendredi soir, nous avions souvent une petite rencontre autour d'un petit goûter avec un peu de vin, de fromage et de biscuits au troisième étage, là où les hommes habitaient. Nous parlions de prophéties, des événements mondiaux, du but de l'existence. C'était des moments précieux et significatifs. Il y avait un désir d'apprendre, un esprit de zèle et d'engagement face au but de la vie. Nous devions tous travailler pour subvenir à nos besoins et il nous fallait faire des sacrifices. Nous étions là dans un but précis et ce but nous animait fortement au cours de ces années. Durant ces premières années, nous étions très proches de M. Armstrong. Personnellement, j'ai passé des milliers d'heures avec M. Armstrong, non pas des centaines d'heures, mais bien des milliers d'heures. Il nous invitait parfois chez lui pour le jour de la Thanksgiving, l'action de grâce. Il venait souvent nous parler, surtout à Raymond McNair et à moi. Tous les deux, nous jouions beaucoup au tennis de table, car il n'y avait pas de gymnase. Plusieurs fois, M. Armstrong est venu jouer avec nous au tennis sur table. Il prenait régulièrement le temps de visiter les étudiants, de nous parler, nous racontant même certaines anecdotes de sa vie. Parfois, les étudiants se rassemblaient autour de lui et il nous parlait de sa vie, de la croissance de l'œuvre et de bien d'autres choses. J'ai assisté personnellement plusieurs fois à l'enregistrement de ses émissions de radio, sans doute à 50 ou 100 reprises. Il avait une voix très riche, résonante, profonde, un homme totalement engagé et enthousiaste. Sa perspective était étendue. Il avait compris le grand but de la vie et il le décrivait avec une clarté extraordinaire et beaucoup de confiance. Je me suis toujours souvenu de ce jour où Raymond McNair et moi sommes revenus d'une tournée de baptême dans plusieurs parties des États-Unis en 1951. Ça donne un petit aperçu de la personnalité de M. Armstrong. Il nous avait commandé de revenir sur le campus. Nous aurions, nous, préféré poursuivre notre tournée et visiter d'autres personnes. Raymond était le président de la classe des seniors, alors que moi, j'étais président du corps étudiant. M. Armstrong tenait à ce que nous revenions. Il nous avait dit, « Il faut que vous reveniez au collège, car c'est le début de l'année scolaire et ce ne sera pas la même chose si vous n'êtes pas là, vous qui êtes deux leaders. » Nous avons voyagé toute la nuit depuis la ville d'Oklahoma. Au matin, avant la session d'orientation, nous étions exténués en arrivant. Lorsqu'il a su que nous étions là, il est venu vers nous. Il savait sans doute que nous étions épuisés. Nous étions un peu ennuyés et je commençais à devenir très négatif envers M. Armstrong. Je me plaignais de la situation et de la fatigue. Nous ne savions pas qu'il était un apôtre. Lui-même ne le savait pas, mais je le respectais beaucoup. J'avais manqué de sommeil et je n'étais pas dans mon assiette. Il nous a rejoints d'un pas rapide en disant « Bravo! C'est tellement bon de vous voir tous les deux. C'est formidable que vous soyez ici. Votre présence va faire une grande différence pour nous tous et pour les nouveaux étudiants lors de cette session d'accueil. J'apprécie que vous ayez voyagé toute la nuit et que vous soyez arrivés sains et saufs. Il était tellement chaleureux et enthousiaste que j'ai littéralement fondu comme du beurre au soleil. Il a utilisé sa voix chaude et sa personnalité dynamique pour me charmer, pour ainsi dire. Je l'ai donc très bien connu personnellement, entre autres à cause de mon amitié avec son fils Richard. Le soir, j'allais aider Richard à préparer les rubans d'enregistrement des émissions radiophoniques que nous avions autrefois. Il fallait ensuite qu'il poste ces rubans aux diverses stations de radio. Il fallait aussi qu'il en apporte à l'aéroport international de Los Angeles. Plusieurs fois, je l'ai accompagné. Au retour, nous nous arrêtions pour un café et nous parlions longuement. Je l'ai très bien connu et à cause de mes rapports étroits avec lui, je me suis souvent retrouvé à la maison des Armstrong. J'étais très proche d'eux. C'est là que j'ai découvert ce qu'on appelait la spécialité des Armstrong. Madame Armstrong n'était pas très bonne cuisinière. Sa mère était morte alors qu'elle n'avait que 3 ou 4 ans. Elle n'avait pas appris à cuisiner. C'est de là qu'est venue la spécialité des Armstrong. C'était du cornflake, des flocons d'avoine. Parfois, nous nous retrouvions chez les Armstrong au moment du repas et nous mangeons des céréales, de flocons d'avoine. Par la suite, Richard et moi, nous avons souvent mangé à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas souvent de repas préparés chez eux. Finalement, je me suis marié, Richard aussi. Nous avons passé des milliers d'heures ensemble jusqu'à sa mort, qui est arrivée au cours d'une tournée de baptême à la fin de juillet 1958. Environ deux mois avant sa mort, Dieu lui a accordé d'accomplir trois miracles spéciaux. Le plus frappant des trois fut la guérison surnaturelle, instantanée, d'un homme du nom de Howard Clark. Cet homme avait fait partie du personnel médical dans les Marines américains lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était devenu quadriplégique à la suite d'une grave blessure. Il avait été traité dans tous les meilleurs hôpitaux des États-Unis. On l'avait opéré. On lui avait prodigué tous les soins que la médecine pouvait offrir sans résultat. Or, à mon retour de Chicago ou de Pittsburgh pour la fin de semaine de la Pentecôte de 1958, le jeune homme du collège qui est venu me chercher à l'aéroport m'a dit, « Monsieur Meredith, saviez-vous que Howard Clark a été guéri? » À cette époque, nous n'avions pas tous les moyens de communication rapide que nous avons aujourd'hui. Pas de téléphone portable, pas de courriel, je ne le savais pas. J'ai dit, « Wow, il est guéri! » Je le connaissais très bien, je lui avais enseigné. J'avais travaillé avec lui. Son épouse et lui m'avaient parfois invité à dîner. Je l'avais conseillé, même baptisé. Un homme que j'aimais beaucoup. J'étais stupéfait. Le lendemain, je me suis rendu sur le campus du collège. Près de la bibliothèque, il y avait comme un rond-point avec des places de stationnement tout autour. Les plus vieux s'en rappelleront. C'était ainsi. J'ai vu Howard assis sur l'aile de sa voiture. C'était avant qu'il puisse s'asseoir seul, sans l'aide de son fauteuil roulant. Je me suis dirigé vers lui. C'était un homme intelligent, avec un bon sens de l'humour. Il m'a regardé venir avec un petit sourire en coin. Il savait à quoi je pensais. Je lui ai dit, « Howard, j'ai su que vous avez été guéri. » Il a dit, « Oui, j'ai été guéri complètement. » J'ai ajouté, « Wow, j'en suis reconnaissant à Dieu. Vous pouvez marcher? » Il a dit, « Vous voulez me voir faire? » J'ai répondu, « Oui, bien sûr. » Il est descendu de son siège et il s'est mis à marcher par petits bonds, d'un pas pesant, un peu comme je fais depuis mon accident cardiovasculaire. Deux mois plus tard, j'ai dirigé la cérémonie de mariage d'un autre, M. Clark, n'ayant aucun lien de parenté avec Howard. Howard était présent, mais cette fois, sa démarche n'était plus du tout hésitante. Les muscles de son corps s'étaient graduellement développés. Il se promenait maintenant en portant un enfant dans chaque bras. J'en avais les larmes aux yeux. Ce même homme qui était incapable de lui-même de quitter son fauteuil roulant, voici qu'il était debout, sans aide, portant deux enfants dans ses bras. Wow! Dieu avait guéri Howard Clark de façon surnaturelle. Tout d'un coup, à cause des prières de Richard David Armstrong. Dieu nous guérit de façon surnaturelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne l'ai jamais oublié, car j'étais très proche et de Richard Armstrong et de Howard Clark. Les commencements du ministère. C'est à Belknap Spring que j'ai célébré ma première fête des tabernacles. Les assemblées avaient lieu dans un grand bâtiment en bois équipé d'un immense foyer en pierre. Les frères s'assoyaient tous en rond sur toutes sortes de vieilles chaises. L'endroit était très, très simple. M. Armstrong donnait tous les sermons. Nous nous réunissions deux fois par jour à ce moment-là, durant les huit jours, en avant-midi et en après-midi. Comme il présentait aussi le message de la soirée d'ouverture, il donnait 17 sermons consécutifs. Ces sermons duraient habituellement deux heures chacun, de sorte qu'il pouvait expliquer en détail et en profondeur la Bible et le but de la vie. C'était une époque très féconde. M. Armstrong m'a littéralement poussé à donner ma première sermonnette. C'était ma première ou ma deuxième année au collège. Je lui ai dit... « Je ne veux pas devenir un ministre, absolument pas. » Il s'en est rappelé plus tard en plaisantant avec moi. Il m'avait dit, « Vous êtes le président du corps étudiant. Faites simplement un petit discours devant les étudiants. Il s'agit d'une toute petite assemblée, toute simple. » Il m'a encouragé de cette façon-là. Je l'ai fait. Après, il m'a dit, « À vous écouter, nous savons tous que vous allez devenir un ministre. » Je me disais, « Non, je ne deviendrai pas ministre. » Et je pense que d'autres ne me voient pas comme ministre non plus. Je me souviens de mon sujet. Je conserve toutes mes notes dans mes cahiers à spirale. Mon sujet, c'était « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? » C'est un thème qui m'avait frappé dans les enseignements de M. Armstrong la première année de ma venue au collège. Il disait qu'un chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Un chrétien est quelqu'un qui a le Christ vivant en lui, qui suit l'exemple du Christ en observant la loi de Dieu, les 10 commandements, le sabbat, quelqu'un qui vit conformément aux enseignements du Christ. J'ai donc présenté ma petite sermonnette sur ce thème et ce fut bien accueilli. J'ai sans doute eu plus de facilité que d'autres à devenir orateur parce que ma formation antérieure était assez étendue dans ce domaine. Je connaissais assez bien la grammaire et j'étais un homme enthousiaste de nature. J'avais eu la chance d'apprendre l'art oratoire et de suivre des cours de communication orale à l'école secondaire. De plus, durant ma première année au collège, le beau-frère de M. Armstrong, Walter Dillon, dont il parle dans son autobiographie, m'a enseigné l'art de parler en public. La deuxième année à l'ambassadeur collège, un autre professeur a continué ma formation en ce sens. Tout ça m'a donné de bonnes bases en communication publique. C'était enthousiasmant et j'avais beaucoup de zèle à vouloir aider les gens, mais j'étais loin de penser à devenir ministre. J'avais même l'impression qu'un ministre restait pratiquement toujours au même endroit, ne prêchant qu'à une seule église locale. J'ai vu par la suite que c'était enthousiasmant de voyager à travers les États-Unis. Raymond McNair et moi quittions parfois Pasadena vers 21h ou 22h pour traverser le désert, prendre le petit déjeuner au lever du soleil à Tucson, en Arizona, puis poursuivre notre route pour aller baptiser des gens qui nous avaient écrits. Nous les avions prévenus par courrier de notre venue, leur donnant généralement rendez-vous au bureau de poste de la ville où ils se trouvaient, à Russellville, Arkansas, à Waco, Texas ou ailleurs. C'était en 1951-1952. Nous avions une vieille voiture 1946 de marque Chrysler qui avait été donnée à M. Armstrong. Ce n'était pas une voiture récente, mais elle était sécuritaire. Les gens voyaient arriver ces deux jeunes hommes dans une voiture immatriculée en Californie, portant des chemises blanches à manches courtes. Ils nous reconnaissaient et s'approchaient de nous en disant, « Vous êtes les garçons venus de Pasadena? Vous êtes les gens de M. Armstrong? » Ils nous abordaient souvent de cette façon-là. Nous agissions comme des ministres, mais nous n'étions pas encore ordonnés. Les gens nous désignaient souvent comme les garçons, car nous n'avions que 21, 22 ou 23 ans. Mais après que nous avions terminé de leur expliquer les choses de la Bible, ils ne nous voyaient plus simplement comme de très jeunes hommes. Il arrivait même qu'ils fondaient en larmes, sachant très bien qu'ils ne reverraient possiblement jamais au cours de cette vie d'autres représentants de M. Armstrong. Parfois, ils faisaient l'erreur d'amener avec eux leur pasteur, pensant qu'il en serait heureux. Très souvent, ce dernier n'était pas du tout heureux de cela. Il essayait de nous interrompre ou de nous défier. Mais chaque fois, Dieu donnait à ces deux jeunes hommes la perspicacité et la sagesse nécessaires pour lui répondre en nous fondant sur la Bible. Chaque fois, ces pasteurs devenaient embarrassés et quittaient les lieux parce qu'ils ne pouvaient pas répondre concernant, par exemple, le sabbat ou d'autres vérités très claires. Nous connaissions très bien notre Bible, même si nous n'étions au collège que depuis 3 ou 4 ans. Nous connaissions les Écritures beaucoup mieux qu'eux. Ils ne comprenaient pas. Ça me montrait à quel point ces ministres étaient spirituellement confus. Même s'ils étaient imbus de sentimentalisme, ils ne comprenaient pas la Bible alors que nous pouvions la comprendre. À de très nombreuses reprises, il nous a fallu faire confiance absolue à Dieu. Il nous a protégés des serpents de toutes sortes et de toutes sortes d'autres dangers. Il nous a protégés d'hommes qui voulaient tirer sur nous ou nous battre. Il nous fallait mettre notre confiance en Dieu. Plusieurs fois, nous l'avons vu nous délivrer. Il nous arrivait souvent de sauter des repas, de manquer de sommeil lors de ces tournées, mais Dieu était avec nous. Au cours de la deuxième tournée, à la fin de l'été, j'ai établi une église locale à San Diego. Ce fut la toute première église établie suite à l'œuvre du Collège Ambassadeur, et Dieu m'a fourni cette occasion. Une toute petite congrégation se réunissant sur la 6e avenue dans un immeuble appelé Dartley Hall. Nous avons démarré cette église avec un groupe de 7 personnes, en plus des 5 que nous étions venus du collège. Un total, donc, de 12 personnes. C'est intéressant parce que le chiffre 12 représente les débuts organisationnels. L'automne suivant, M. Armstrong avait déjà planifié de m'envoyer à Portland, en Oregon, pour m'occuper de l'Église là-bas. Basil Wolverton, l'auteur des livres anglais Bible Story, l'histoire biblique, était le pasteur de cette église, mais il occupait en même temps un poste à temps plein comme dessinateur. Il s'occupait de cette église comme un à côté en tant qu'ancien local. Je n'étais pas encore ordonné, même si j'avais effectué ces tournées de baptême en tant que représentant de M. Armstrong. Il m'a donc envoyé là-bas, dans le rôle de pasteur, pour développer l'église de Portland. C'est ce que j'ai fait, en guidant l'église et servant les gens. En rétrospective, je pense que M. Armstrong m'a envoyé là-bas pour me tester, pour voir ce que j'allais faire. Un jour, il m'a demandé de revenir à Pasadena par avion. Il avait décidé d'ordonner quelques hommes en tant qu'évangélistes. Il ne considérait pas ce poste comme une sorte de position élevée, comme nous le voyons aujourd'hui. Il pensait surtout à des jeunes hommes comme Timothée, Tite et d'autres qui avaient aidé Paul. Et M. Armstrong avait alors besoin d'aide. Certains d'entre nous avions commencé à écrire des articles. J'avais d'ailleurs déjà écrit pour la revue La Bonne Nouvelle et plus tard pour La Pure Vérité. J'avais travaillé la production de ces revues alors que j'étais encore au collège, avant même d'être envoyé à Portland, en Oregon. Ce même automne, je suis donc descendu à Pasadena, où j'ai été ordonné évangéliste le 21 décembre 1952. Dans la salle principale de l'édifice de la bibliothèque, M. Armstrong a d'abord ordonné Herman Hay, qui était le plus ancien à servir. Puis M. Armstrong s'est tourné et a ordonné Raymond Cole. Ils se sont tournés ensemble pour ordonner Richard David Armstrong, le fils aîné de M. Armstrong, qui se montrait fidèle dans l'œuvre. Puis ils ont imposé les mains à mon oncle, le docteur C. Paul Meredith. J'ai été le dernier du groupe à être ordonné. Le dernier et le moindre, parce que j'étais le plus jeune et le plus nouveau dans la vérité. J'ai donc été ordonné évangéliste le 21 décembre 1952. Je suis le seul de ce groupe à être encore vivant à ce moment-ci. Lors de ma première année au collège, M. Armstrong nous a demandé à moi et à Herman Hay, qui étions des leaders au collège, d'aider à publier la revue anglaise Good News, La Bonne Nouvelle. Il avait été incapable de la produire durant 13 ans, parce qu'il s'était consacré à développer l'œuvre et le collège. Nous avons réussi à publier au printemps de 1951. Les plus anciens se souviendront que c'est à partir de là que la revue fut publiée régulièrement. Dans le deuxième numéro, je crois, c'est moi qui ai présenté l'article principal intitulé « L'atmosphère au collège ambassadeur ». Nous partageons un tout petit bureau au sous-sol de la bâtisse appelée Mayfair qui servait de dortoir pour les étudiants. Nous avions de minuscules pupitres d'étudiants placés l'un à côté de l'autre. Nous travaillions ensemble. Quand nous avions fini d'écrire, Elva Russell venait dactylographier certains de nos articles. Elle produisait les miens sur des pages jaunes de documents légaux. Elle était d'ailleurs la seule à pouvoir déchiffrer mon écriture. Elle tapait mon travail à la machine. Nous préparions le tout pour l'apporter le lendemain matin à Ed Swin à Pacific Press. Le lendemain matin, nous partions vers 7h30 pour aller à cette imprimerie. Eux produisaient d'abord une copie brune des textes avec la pagination pour ensuite procéder à l'impression finale. C'est ainsi que Herman Hay et moi avons aidé à publier la revue dans les premiers temps. M. Armstrong ne voulait pas l'appeler La Pure Vérité, The Plain Truth, au début, ni nous laisser l'écrire. Il voulait que La Plain Truth, La Pure Vérité, soit d'un niveau plus élevé. Après qu'il nous ait laissé travailler à la publication du Good News, après qu'il nous eut montré à travailler, à mieux écrire, alors il a commencé à nous laisser écrire pour La Plain Truth, La Pure Vérité. Les plus anciens se souviendront que La Plain Truth a commencé à être publiée régulièrement en 1953, en janvier. Au début, notre tirage n'était que de quelques milliers d'exemplaires. Mais il y eut croissance, croissance et croissance. Plus le nombre de stations radiophoniques diffusant nos émissions augmentait, plus notre tirage a augmenté, passant de 3 à 5 000 copies au début pour atteindre finalement 8 300 000 copies envoyées régulièrement autour du monde. Une croissance incroyable au cours de ces années. En passant, laissez-moi préciser que nous avons publié une troisième revue durant environ 2 ans. À cette époque, le Plain Truth traitait davantage des affaires du monde sous forme de nouvelles. Quant à la revue Good News, elle donnait surtout des nouvelles de l'Église tout en offrant une nourriture spirituelle plus solide. Le champ entre ces deux revues était large. Nous avons alors ajouté la revue Tomorrow's World, qui offrait un contenu plus spirituel, annonçant plus directement l'Évangile et orientant les lecteurs vers l'Église. Nous avons publié cette revue durant 2-3 ans et elle a fait beaucoup de bien. Nous en étions reconnaissants, bien que cela nous tenait très, très occupés. Comme vous le savez, j'ai redonné vie à ce même titre de revue. Nous appelons aujourd'hui notre principale publication anglaise « Tomorrow's World » et nous en sommes très reconnaissants. En 1954, j'ai appris beaucoup lors d'un voyage en Europe avec Richard Armstrong. J'ai découvert beaucoup de choses. Je n'étais jamais sorti des États-Unis. Nous avons voyagé à bord du Reine Élisabeth, le plus grand navire de passagers à l'époque. Nous avons quitté le port de New York sous un épais brouillard. Après avoir dépassé la Statue de la Liberté, les remorqueurs se sont détachés, puis les moteurs du navire se sont mis en marche. Tout le bâtiment s'est mis à vibrer et la sirène s'est mise à se faire entendre. J'en avais des frissons. Je réalisais que je quittais les États-Unis pour la première fois, sauf pour aller au Mexique. Toutefois, le plus frappant, ce fut la campagne elle-même. En Irlande du Nord, 700 personnes se sont présentées. C'était en partie dû au fait qu'ils étaient vexés par les catholiques avec lesquels ils étaient à couteau tiré. Ils ont présumé alors que M. Armstrong était anti-catholique, un peu comme leur ministre, et ils ont apporté leur support. Franchement, ils n'étaient pas nécessairement appelés. M. Armstrong a parlé avec puissance aux gens à Belfast, à Glasgow, à Manchester et à Londres. Il leur a dit, « Vous, les Anglais, si vous ne vous réveillez pas et ne vous tournez pas vers le Dieu de la Bible, Dieu va vous dépouiller de votre empire. » Et il a ajouté ceci avec précision, « Je veux que vous le réalisiez. J'étais là, je l'ai entendu. » Il a dit, « Dieu va vous enlever le contrôle de vos portes maritimes. » À l'époque, ils en contrôlaient 8 à 10. Aujourd'hui, elles leur ont toutes échappé, sauf 2. Ma femme et moi sommes retournés là-bas, 2 ans plus tard. La crise du canal de Suez a éclaté et l'Angleterre a perdu cette porte maritime. 2 ans après l'avertissement de M. Armstrong, stupéfiant, ces choses ont continué à se poursuivre, des choses majeures affectant d'importantes régions du monde. Aujourd'hui, les 2 portes maritimes restantes sont en danger et elles échapperont probablement aussi avant longtemps au contrôle des Anglais. Les Anglais en détenaient 10, mais ils n'en auront plus aucune. Tout comme M. Armstrong, le serviteur de Dieu, les en a avertis au début des années 50, et comme je l'ai entendu répéter à plusieurs reprises avant sa mort, ma femme et moi sommes retournés en Angleterre. Ma première épouse était Margie McNair, la sœur de Raymond McNair, et de Bert et de Carl. Elle est morte d'un cancer il y a environ 35 ans. Nous avons alors eu l'occasion de faire une autre campagne à Londres durant l'hiver de 1957, en janvier-février. Notre premier enfant, Elisabeth, est d'ailleurs née à Londres. En 1960, ma famille et moi avons de nouveau été envoyés en Angleterre. J'y ai effectué une campagne d'évangélisation de 12 semaines entières, planifiée par M. Armstrong. C'était une campagne sous l'ancienne approche, 5 soirs par semaine, durant 12 semaines consécutives. J'ai donc dû donner 60 sermons de suite, en plus d'un ou deux sermons chaque fin de semaine, le sabbat, car parfois je prêchais à Bristol l'avant-midi et à Londres l'après-midi, quand M. Armstrong n'était pas là. J'ai ainsi participé à l'établissement des églises de Londres, Bristol, Birmingham et Manchester. 2 de mes enfants sont nés en Grande-Bretagne. Mon fils aîné, Jim, est né sur le campus du collège à Bricketwood en novembre 1960. Vie chrétienne. 2 mois après la mort de son fils Richard, M. Armstrong a commencé à être très préoccupé parce que lui-même et son fils Ted étaient les 2 seuls leaders en charge. Il venait d'apprendre l'histoire d'un homme d'affaires et de son fils en charge d'une grande entreprise. Tous 2 étaient morts dans un accident d'avion et leur compagnie s'était effondrée parce qu'il n'y avait pas de relève pour diriger l'entreprise de 300 employés. Il m'a désigné donc comme 2e vice-président de l'Église. Jamais je n'avais demandé cela, ni même rêvé de cela. Je ne savais même pas que ce poste existait. Il m'a donc nommé 2e vice-président vers octobre-novembre 1958, 2 ou 3 mois après la mort de Richard. Il m'a dit, « Roderick, s'il m'arrive quelque chose, je veux que vous poursuiviez l'œuvre. Parmi nos hommes, vous êtes celui qui a le plus d'expérience. J'ai été là une douzaine d'années et, comme il me l'avait dit, j'ai examiné l'œuvre sous tous ses angles et j'ai appris les rouages de chaque département au cas où il me faille prendre la direction. J'avais cette responsabilité sur les épaules. J'ai aussi eu le privilège d'enseigner à un plus grand nombre d'étudiants que n'importe qui d'autre, divers cours du collège, y compris des cours de Bible. C'est la vérité, vous pouvez vérifier. Chaque année, de 1953 à 1989, j'ai donné des cours de Bible. J'ai en outre exercé les fonctions de directeur du ministère, aidant les ministres à développer les églises locales et à établir de nouvelles églises. Par exemple, nous avons établi une église à Cincinnati et peu après, deux ou trois autres se sont ajoutés. Nous avons démarré une église à Chicago et trois ou quatre autres se sont ajoutés tout de suite. C'était ainsi tout au long du pays, une croissance considérable. Je parle parfois des belles années 50, parce que M. et Mme Armstrong jouaient le rôle de figure parentale pour nous, et parce que l'œuvre était stable, alors qu'elle se mettait vraiment en marche. Quant aux années 60, je les appelle les années d'essor, parce que l'œuvre a pris son envol. Les églises locales et les ministres s'ajoutaient par douzaines, et nous connaissions une croissance très rapide à cette période. Toutefois, à la fin des années 60, un malaise a commencé à apparaître, parce que nos gens commencèrent à prendre les choses pour acquis. L'état du monde empirait et l'état de l'Église également. Le Dr. Herman Hay avait l'habitude de dire « l'Église reflète le monde ». Quand le monde devient plus faible et mondain, et disons laodicéen, alors l'Église devient davantage laodicéenne. Mme Armstrong est décédée en avril ou mai 1967. Les choses ont commencé à se détériorer un peu. La plupart des membres ne s'en sont pas rendus compte, mais nous qui étions sur place, nous avons commencé à le percevoir en 1968-69. Le profond respect pour Dieu et pour la Bible n'était plus aussi présent qu'auparavant. Quand nous visitions les gens dans les années 50, lors des tournées de baptême ou que nous établissions une nouvelle église, souvent les gens connaissaient beaucoup de choses bibliques. Ils posaient régulièrement des questions au sujet des épîtres de Paul, lesquelles renferment plusieurs passages difficiles. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Dieu et M. Armstrong m'ont permis de développer et de donner des cours intitulés « Les épîtres de Paul » pour expliquer justement tous ces passages qui semblaient difficiles à comprendre de prime abord. À la fin des années 60 et au début des années 70, l'attention des gens était tellement détournée de la Bible qu'ils ne posaient même plus de questions sur son contenu et ne le connaissaient pas. Ils demandaient plutôt « Y a-t-il un Dieu réel » ou bien « Y a-t-il un but à l'existence humaine ?» En fait, le malaise qui se développait dans la société commençait à déteindre un peu sur l'Église. Bien sûr, le collège a fait beaucoup de bien et produit de bons fruits. Nous avions de merveilleuses activités, de beaux concerts, des festivités, des danses. M. Armstrong a toujours mis l'accent sur la qualité. Ça se reflétait dans l'auditorium avec ses pierres superbes, de grand prix. C'est magnifique. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux auditoriums du monde. Certains des plus grands chefs d'orchestre ont déclaré que cette salle possède une qualité sonore unique, presque sans pareil en comparaison de tous les lieux où ils se sont produits. Un auditorium d'une beauté exceptionnelle. La mort de ma première épouse, Margie Ellen McNair Meredith, survenue le 16 juin 1976, m'a assommé, comme si une tonne de briques était tombée sur moi tout d'un coup. Je n'avais jamais imaginé vivre plus longtemps qu'elle. J'étais convaincue qu'elle vivrait plus longtemps que moi parce qu'elle avait 6 ans de moins que moi. Ça m'a profondément ébranlé. J'ai dû prier, jeûner en demandant l'aide de Dieu pour voir la vue d'ensemble, la grande perspective. J'ai vu que c'était la volonté de Dieu. Il l'avait permis. Non pas à cause de Margie, parce que c'était une personne très bien, mais sans doute pour que je sois testé, parce que j'ai dû ensuite m'adapter à une autre personnalité totalement différente avec ma deuxième épouse, ce qui m'a amené à des émotions différentes et m'a amené à développer une perspective plus large. Cela m'a aussi humilié. Je me souviens d'un jeune homme arrogant un jour sur l'autoroute, fougueux et insouciant comme nous l'avons sans doute tous été un peu. Un jour où je roulais pour me rendre au travail, il est sorti à toute vitesse d'une bretelle de l'autoroute. Sa voiture a presque percuté la mienne. Il m'a coupé la route, puis a accéléré. C'était tout juste après la mort de Margie, je me suis dit, je m'en fous, ma vie est finie de toute façon, Margie est partie. J'ai commencé à accélérer pour le rejoindre, puis je me suis dit, non. Après 30 secondes de méditation dans l'auto, j'ai pensé, la vie doit continuer. J'ai 4 enfants dont je dois m'occuper. Je suis un ministre de Jésus-Christ. Alors, j'ai demandé à Dieu de me pardonner mon arrogance et de m'aider à continuer à faire sa volonté. Frères et sœurs, vous aurez tous des épreuves semblables. La mort d'un enfant, d'un conjoint, la perte de votre emploi. Au cours des prochaines années, nous allons tous affronter des épreuves et des tests, de loin plus grands que tout ce que nous avons imaginé. Il faudra garder notre esprit sur la réalité de Dieu. Il est notre Père. Jamais il ne nous laissera ni ne nous abandonnera. Il faut toujours le comprendre. J'ai servi déjà en tant que pasteur régional. Bien que j'habitais Pasadena, je devais superviser la région comprenant Bakersfield, Santa Barbara et plusieurs autres églises dans ce secteur. On m'a demandé d'aller régler un problème un jour, un problème dans le diaconat. 2 diacres étaient à couteau tiré. 2 ou 3 avaient déjà quitté. Alors, j'y suis allé en vue d'aider à régler ce problème. Le premier sabbat où j'y suis allé, j'ai donné un puissant sermon du fond de mon cœur. Un sermon vraiment senti. Mon épouse était morte 1 an auparavant. Mon sermon traitait de la résurrection, justement. Plusieurs personnes sont venues me voir après l'assemblée, et parmi elles, il y avait cette belle jeune femme, une jeune femme tout simplement radieuse. Elle m'a dit, « Docteur Meredith, je vous aime. Votre sermon était formidable. » C'est sa première phrase qui m'a frappé le plus. « Docteur Meredith, je vous aime. » Elle était tellement jolie. Mais j'avais peur qu'elle soit déjà mariée. Plus tard, j'ai demandé au pasteur, « Qui était-ce? » Il m'a répondu, « C'est Cheryl Hensley. » J'ai dit, « Est-elle mariée? » Il a dit, « Non, son mari est mort il y a quelques mois. » Je me suis dit, « Wow, elle est veuve, je suis veuf. » J'ai tout de suite eu des idées. Et la fois suivante où je suis allé à cette église, je l'ai invitée et j'ai commencé à la fréquenter. Nos fréquentations furent merveilleuses. Jusque-là, je me sentais terriblement seul depuis la mort de ma première épouse à la suite d'un cancer en 1976. J'ai rencontré Cheryl un peu plus tard, 1 an après. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Sa compagnie me faisait beaucoup de bien. Par après, je l'invitais à venir passer les fins de semaine à Pasadena et je l'invitais à visiter divers endroits. Une fin de semaine, je faisais les arrangements nécessaires pour qu'elle habite chez la famille de notre barbier du collège à Pasadena. C'est lui qui coupait les cheveux de M. Armstrong. Mon épouse était amie de ce couple lorsqu'elle habitait à Bakersfield. Ils ont été baptisés tous les deux le même jour, en 1971. La fin de semaine suivante, je prenais les arrangements pour qu'elle habite chez les appartiens. Ainsi, elle logeait toujours chez des gens pour que les choses soient faites de bonne façon. Quelques semaines plus tard, Cheryl, celle qui allait devenir plus tard ma femme, m'a dit, Rod, je me suis rendu compte que Madame Appartient était la meilleure amie de ton épouse. Tu m'as placé dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Et je lui ai répondu, oui, c'est bien. Il faut que chacun de nous sache vraiment qui est l'autre. Les Appartient m'ont parlé d'elle en bien et j'en suis venu à l'aimer profondément. Nous nous sommes mariés à la fin de novembre. Notre mariage est heureux et ce, depuis plus de 33 ans maintenant. Je suis très reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Elle m'a beaucoup aidé, en plus d'agir comme une mère pour ma petite Rebecca, qui n'avait que 9 ans lorsque nous nous sommes mariés. J'avais absolument besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle comme une mère. C'est ce qu'elle a fait, de même que pour mon fils Jim, qui était alors adolescent. Elle m'a aidé de toutes les façons imaginables et j'en suis très reconnaissant. J'ai 6 enfants. J'aurai bientôt 10 petits-enfants, en plus de 3 arrière-petits-enfants. Je suis absolument béni. Dieu m'a donné d'avoir une vie riche et heureuse. C'est difficile et exigeant d'être ministre, voyager constamment, démarrer des églises, faire des campagnes, tout en s'efforçant d'être un père au mieux possible. J'ai toujours vu l'œuvre comme une croisade. Quand j'ai été converti, ce fut comme une entrée en croisade pour moi. Je voulais aider M. Armstrong à bâtir l'œuvre. Et franchement, j'ai été en croisade depuis ce temps-là. Ma famille le sait. C'est la chose la plus importante au monde. Et je suis reconnaissant de faire partie de cette œuvre. Bien sûr, mes enfants ont dû s'adapter à cela. Et malgré tout, ils s'en sont tirés raisonnablement bien. J'en remercie Dieu de même que de les avoir protégés et de les avoir soutenus ainsi. Prendre position. Dieu a averti ceux de l'ère d'Éphèse en disant, « Vous avez perdu votre premier amour. » Il les a avertis. La même chose a commencé à nous arriver dans les années 70. Certains libéraux ont commencé alors à s'infiltrer au pouvoir. Deux ou trois d'entre nous avons dû combattre ces libéraux, nous efforçant de soutenir la vérité, aidant M. Armstrong à maintenir la cohésion et l'unité dans l'Église. Nous avons réussi. Néanmoins, nous avons perdu un certain nombre de gens et de ministres qui faisaient des compromis avec la vérité et qui se sont même tournés contre M. Armstrong. En 1974, nous avons perdu 30 ministres et 3 000 personnes sur la côte est des États-Unis à cause d'un groupe de jeunes ministres rebelles. Satan attaquait continuellement, essayant d'amener les gens à se tourner contre M. Armstrong. Nous avons dû faire tous les efforts possibles pour l'aider à continuer l'œuvre. Au cours de ces années, certains de ces hommes méchants m'accusaient. Ils disaient à M. Armstrong, Raymond McNair et Roderick Meredith souhaitent que vous mouriez pour prendre votre place à la direction de l'Église. C'était totalement mensonger et tous mes proches le savaient, y compris ceux qui travaillaient à mes côtés. Certains d'entre eux sont présentement avec l'Église unie, United, et pourraient le confirmer. J'ai travaillé des centaines d'heures avec Burt McNair au cours de ces années. Et il sait que je n'ai jamais même commencé à dire quoi que ce soit contre M. Armstrong ou à laisser entendre que je voulais établir ma propre Église ou encore prendre le pouvoir. Je n'avais aucun de ces sentiments. Je n'avais absolument pas une telle attitude. Il nous a fallu attendre que Dieu intervienne, lui demander chaque jour de nous délivrer et de protéger l'œuvre. Comme la plupart le savent, en 1977, M. Armstrong a été victime d'une crise cardiaque majeure. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre et pour récupérer. Il était faible et ne pouvait plus accomplir autant de choses qu'auparavant. Au début des années 80, il continuait de s'efforcer de venir au bureau. Il arrivait vers 10 heures le matin et passait un certain nombre d'heures sur le campus. Il ne voyageait plus autant, mais il s'est alors employé à ramener l'Église sur ses rails. Quand M. Armstrong est mort, c'est M. Tikash qui a pris sa charge. Le matin du décès, M. Tikash a téléphoné à tous les membres du Conseil des anciens pour les en informer et pour nous demander d'aller le rejoindre afin de prendre une photo de groupe. Nous nous sommes bien entendus jusqu'à ce que les doctrines commencent à être changées. Il a laissé deux jeunes hommes en particulier l'influencer et graduellement, nous avons vu s'installer un manque de respect pour tout ce que M. Armstrong avait enseigné. Il ne parlait plus beaucoup de prophétie, ni du leadership de M. Armstrong, ni de notre besoin d'accomplir son œuvre puissante. Ils ont commencé à diluer plusieurs aspects du sabbat. Ils ont finalement commencé à diluer toute l'approche concernant la guérison et plusieurs autres éléments qui nous distinguaient. De l'intérieur, nous le percevions clairement, mais un grand nombre de frères ne s'en sont pas rendus compte au début. Ils ont agi lentement avec beaucoup de précautions, un peu comme la vieille histoire qui montre comment on peut cuire une grenouille dans l'eau sans qu'elle s'en rende trop compte, simplement en augmentant graduellement la chaleur de l'eau. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'Église vers la fin des années 80 et au début des années 90. L'une des choses principales que je les ai vues changer, c'est toute l'approche concernant la foi en Dieu pour la guérison. Ils ont sapé les bases de cette vérité et l'ont mise en pièces. Dr. Hay a dit ceci à propos de celui qui a alors écrit leur brochure sur la guérison. En passant, ce n'est pas M. Tikach qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre. Dr. Hay a dit, M. Armstrong, dans sa brochure, parlait de la foi, alors que cet autre parle plutôt de médecine. Ça résumait très bien les choses. Le premier parlant de la foi et le deuxième parlait de médecine très subtilement, mais on pouvait voir qu'on enlevait ainsi l'emphase de sur Dieu. Ils ont également détourné l'attention au sujet de notre identité en tant que peuple, du fait que les peuples anglais et américains sont les descendants des 10 tribus perdues d'Israël. Cette connaissance nous permet de savoir qui nous sommes dans la prophétie biblique. M. Armstrong disait qu'il s'agit là d'une clé majeure. Très vite, ils ont commencé à supprimer ce concept et à rejeter toute compréhension des prophéties. Puis, ils sont retournés à l'idée des protestants évangéliques disant qu'il suffit simplement d'aimer Jésus, c'est tout ce qu'il y a à faire. À mesure que les années passaient, ils développaient cette approche. Au collège, j'avais été l'un des principaux enseignants de la Bible. Plus que quiconque, j'avais donné des cours de Bible. Je voyais donc très bien ce qui se passait. Je sais que plusieurs membres et même plusieurs ministres ne réalisaient pas ce qui se passait. De par mon expérience, il m'était plus facile d'identifier ce qu'ils faisaient exactement. Un jour, ils s'en sont pris à moi. Et ils m'ont finalement enlevé de Big Sandy suite à un sermon que j'ai donné. J'avais expliqué que le Christ doit vivre en nous comme il a vécu il y a 1900 ans. Je démontrais que la doctrine de l'Antéchrist est tout à fait contraire à cela. J'avais été très clair, mais ce sermon n'avait pas été très bien reçu ni accepté par ces gens à Pasadena. Une autre chose qui était très évidente, c'est qu'ils n'aimaient pas M. Armstrong. Ils avaient du ressentiment à son égard. Ils voulaient que les gens tournent les yeux vers M. Tikach et qu'ils oublient M. Armstrong. C'est pourquoi ils se sont mis à attaquer et à rejeter tout ce que M. Armstrong avait enseigné et qui n'allait pas dans le sens du courant principal du christianisme du monde. C'était facile à voir pour quelqu'un qui comprenait et qui était sur place depuis un certain temps. Lorsque j'ai vu ces hommes se détourner de Dieu, ça m'a aidé à réaliser plus profondément à quel point Dieu avait utilisé M. Herbert W. Armstrong pour nous faire connaître la connaissance fondamentale en ce qui a trait au but de la vie, aux vérités bibliques essentielles et à la réalité du véritable christianisme apostolique. J'en suis venu à apprécier tout ceci encore davantage après son départ. J'ai ensuite prêché en insistant sur l'immense importance de la véritable humilité. Ne pas chercher à faire vos propres choses, mais demander à Dieu de vous garder humble. Aller de l'avant dans la crainte de Dieu. Cette approche m'a beaucoup aidé depuis ce temps. Je n'ai pas essayé de me désigner comme étant un apôtre ou un prophète et je n'ai pas cherché à m'attribuer de titres importants. J'ai simplement continué d'être serviteur de Dieu. J'ai été ordonné évangéliste, c'est ce que je suis. Je suis serviteur du Christ, selon le rang où M. Armstrong m'a ordonné. Je n'ai jamais prétendu être autre chose et je ne suis rien d'autre. Finalement, j'ai dû commencer l'Église globale de Dieu parce que la situation s'était terriblement détériorée. À deux ou trois reprises, j'avais eu auparavant l'occasion de le faire. Un groupe m'avait demandé avec insistance de me joindre à eux et de commencer une autre œuvre un an auparavant. Avant que je quitte, j'ai dit à mon épouse et à d'autres, « Je ne peux pas faire ça. On m'a enseigné la loyauté et l'esprit d'unité. Et je crois que les choses ne sont pas encore si mauvaises. M. Tikach pouvait encore, selon moi, ramener l'Église sur la bonne voie. » Un an après, les deux jeunes hommes qui assistaient M. Tikach ont voulu me forcer à prendre ma retraite. Je leur ai dit, « Je ne peux pas prendre ma retraite. Je n'ai que 62 ans, je suis en bonne santé. Je peux servir en tant qu'ancien local, oindre les malades, prêcher quelques sermonettes et aider les gens de toute façon possible. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'important. » L'un des deux jeunes hommes, le barbu, m'a dit avec arrogance, « C'est hors de question. » Ça ne m'a pas surpris du tout, parce qu'ils avaient commencé depuis longtemps à miner la crédibilité de M. Armstrong. L'été précédent, ils m'avaient convoqué pour me dire, « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vous ne comprenez toujours pas que nous n'enseignerons plus désormais ce que M. Armstrong enseignait. » Puis, ils se sont mis à se moquer de M. Armstrong. Ils ont même sorti quelques vieilles pures vérités contenant certaines petites erreurs, des dates imprécises ou inexactes concernant la prophétie. Ils n'ont pas marché dessus avec leurs pieds, mais ils l'ont fait verbalement. Et ils se sont moqués de ce que le Christ a fait par M. Armstrong. J'ai commencé alors à réaliser qu'ils allaient dans la mauvaise direction. Quelques semaines plus tard, ils ont publié la brochure intitulée « God is, Dieu est ». Cette publication présentait un concept tout à fait différent du Dieu Tout-Puissant que celui présenté dans la Bible. C'était évident. C'était juste avant la fête de 1992. J'ai lu cette brochure très vitement, tout en me disant qu'il faudrait y revenir. Puis nous sommes partis pour la fête. Après la fête, j'ai réalisé que c'était terrible et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré un autre évangéliste qui m'a dit « Ils vont tout changer ». Cet homme m'avait toujours dit la vérité. J'ai demandé « Vont-ils changer le sabbat ?» Oui. « Les jours saints ?» Oui. « La compréhension des prophéties ?» Oui. Ils avaient d'ailleurs déjà commencé à le faire. Il a ajouté « Ils vont littéralement changer tout ce qui nous rendait différents du courant principal du protestantisme ». C'était clair et je voyais très bien dans quelle direction ils allaient. Peu après, les deux jeunes hommes m'ont convoqué pour me dire qu'ils m'obligeaient à prendre ma retraite. C'est ce qui m'a fait prendre ma décision. Dieu me donnait ainsi une grande poussée. Je ne voulais pas quitter, mais il m'aurait fallu accepter leur proposition de retraite. Un bon salaire, la possibilité de racheter à bas prix ma voiture louée et le paiement de tous mes frais de déménagement. Ils auraient d'ailleurs était très content de me voir partir ailleurs pour que je ne sois plus à Pasadena. Je le savais. Si j'avais accepté leur offre pour quitter ensuite, plus tard, et continuer l'œuvre, ça aurait semblé hypocrite. L'autre choix, c'était de prendre position sur le champ. J'ai pris position immédiatement. J'ai insisté tout de suite pour rencontrer M. Tikach. Je me suis présenté avec mon épouse, car je savais qu'il aurait d'autres personnes avec lui et qu'il pourrait essayer de tordre tout ce que je lui dirais. Je voulais donc avoir un témoin honnête. Cheryl m'a accompagné et nous sommes montés au bureau de M. Tikart. Les deux jeunes hommes étaient bel et bien là, mais j'avais mon épouse à mes côtés. J'ai dit à M. Tikart que je serais heureux de continuer si nous poursuivions l'œuvre dans la vérité, que j'étais prêt à l'aider à relancer l'œuvre, s'il était d'accord. Il a dit, « Non, nous allons continuer dans notre direction présente. » J'ai répondu, « Dans ce cas, je vais devoir ranimer l'œuvre et enseigner la vérité. Dieu m'a appelé pour que j'enseigne la vérité. Messieurs, je ne peux pas vous laisser l'éteindre. » Il m'a dit, « Rod, vous allez détruire l'œuvre entière. » J'ai répondu, « Non, monsieur, vous êtes déjà en train de détruire l'œuvre. » Des milliers de personnes ont déjà rejoint Ted Armstrong. Ce qu'elle n'aurait pas fait autrement. Des milliers sont allés avec Fleury, ce qu'elle n'aurait pas fait autrement. Je vais devoir enseigner la vérité et continuer l'œuvre de Dieu. Il était ébranlé et il m'a dit, « S'il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de vous attaquer personnellement pour que des gens se fâchent contre vous à cause de vos problèmes. » Moi, je connaissais très bien certains de ses problèmes à lui, dont quelques-uns étaient très sérieux et il le savait. J'ai demandé aux deux jeunes hommes, « Allez-vous m'attaquer? » Ils m'ont tout de suite dit, « Oh, non, nous ne ferions jamais ça. » Dans l'ascenseur, mon épouse m'a dit par après, « Rod, c'est la première chose qu'ils feront. » Effectivement, c'est la première chose qu'ils ont faite. Ils ont tout de suite répandu toutes sortes de choses à mon sujet, par téléphone, par ordinateur, dans tout le pays, en me dénigrant, en m'accusant d'avoir toujours voulu avoir ma propre église. Ils ont multiplié les attaques sans relâche. Les plus anciens se souviennent que lorsque nous avons commencé l'Église globale de Dieu, nous n'avons pas perdu de temps à les attaquer. Nous nous sommes appliqués à remettre l'Église sur ses rails. Nous avons enseigné la vérité. C'est comme ça que nous avons commencé. Nous ne cherchions pas à avoir un emploi. J'ai dit à mon épouse que nous allions peut-être devoir loger dans une roulotte, non pas dans une jolie maison mobile, mais une simple roulotte. Elle savait que je ne plaisantais pas. Il nous fallait être disposés à avancer par la foi, et c'est ce que nous avons fait. Au départ, nous étions très peu nombreux. Nous avons commencé avec 19 personnes dans mon salon lors du premier sabbat. Le sabbat suivant, nous étions 42 et la croissance s'est poursuivie par la suite à partir de ce mois de janvier. Si bien qu'à la fête de l'automne 1993, nous avions une assistance de 1 500 personnes. L'année suivante, 1994, nous avons eu 3 000 personnes à la fête des tabernacles. Nous commencions à croître. Dieu a béni l'œuvre. Nous avons immédiatement été sur les ondes de la radio. Aussitôt, nous avons prêché l'Évangile et j'en suis très reconnaissant. Pour éviter qu'une telle situation déplorable ne frappe de nouveau l'Église, il faut renforcer tout le concept du christianisme original. Montrer clairement que le christianisme ne consiste pas simplement à croire au Christ, mais qu'il faut que le Christ vive sa vie en vous. Voilà pourquoi je mets régulièrement l'emphase sur Galates 2, verset 20, où Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je mets beaucoup l'accent sur ce sujet. Je cite ce passage presque chaque deuxième sermon que je donne. J'enseigne cette façon de vivre, de même que l'importance de connaître le Dieu réel qui intervient dans les affaires du monde de plus en plus. Je veux amener les gens à voir la réalité de Dieu, le grand Dieu de la création qui se manifeste présentement dans les affaires du monde. J'enseigne aux gens la réalité de Dieu et la crainte de Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu dit, étudier la Bible, pas simplement la lire, se nourrir du Christ, vraiment l'étudier, avoir un profond respect pour Dieu et marcher dans ses voies. L'Église du Dieu vivant. Nous prêchons toute la vérité. Paul en parle dans Actes chapitre 20, au verset 27. Il dit, « Tout le conseil de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous trouve quelque chose que nous n'enseignons pas, dites-nous-le. Nous avons acquis de la maturité, nous avons changé et nous changeons encore. » D'autres groupes ont laissé tomber beaucoup de choses que M. Armstrong enseignait. D'autres, par contre, ont ajouté certaines choses que M. Armstrong n'avait jamais enseignées. Nous nous efforçons d'enseigner tout le conseil de Dieu, basé non seulement sur ce que M. Armstrong a enseigné, mais basé sur la Bible elle-même. Nous ne diluons pas les choses. Deuxièmement, nous prêchons et mettons en pratique le gouvernement de Dieu. Certains groupes sont dirigés par des dictateurs qui se sont eux-mêmes attribués des fonctions. Dieu lui-même ne les a pas choisis. Ils se sont eux-mêmes désignés comme étant des apôtres, des prophètes ou autres. Aucun de nous, dans cette œuvre, n'a fait ça. Nous sommes serviteurs de Dieu, évangélistes ou ministres ou pasteurs. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous faisons. Nous enseignons la vérité, la voie de Dieu. Nous enseignons un gouvernement hiérarchique allant de haut en bas, basé sur la foi de Dieu, un gouvernement dans lequel Dieu agit. Nous devons porter des fruits selon la voie divine. Nous devons être des dirigeants serviteurs. Les ministres doivent être serviteurs des autres, s'appliquer à les aider, à les servir, les assister dans leur croissance. Voilà ce à quoi j'ai consacré mes efforts plus que jamais au cours de ces dernières 18 années et demie, développant l'Église globale et maintenant l'Église du Dieu vivant. Troisièmement, il nous faut accomplir l'œuvre. Certaines autres églises se sont formées pour que les ministres continuent d'avoir un salaire. Un de ces groupes l'a dit ouvertement. On voulait que les ministres aient le même salaire, le même style de vie qu'auparavant. C'était même expliqué dans leur littérature du début, du moins au commencement. Il peut être plus difficile de retrouver ces écrits aujourd'hui parce qu'ils les ont sans doute enlevés de la circulation. Mais plusieurs de ceux d'entre eux qui sont venus avec nous nous l'ont dit. Nous n'avons jamais fait ça. Au contraire, j'ai dit à chaque ministre venu avec nous, nous allons devoir avoir foi en Dieu. Dieu va nous utiliser pour faire l'œuvre et il va prendre soin de nous. Nous devons accomplir une œuvre puissante. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Jésus a dit, « Ma nourriture est d'accomplir l'œuvre de Dieu. » C'est aussi notre nourriture. Voilà notre force. Voilà notre raison d'être. Proclamer ce message au monde, obéir aux commandements de Dieu, prêcher l'Évangile du royaume de Dieu, son gouvernement à venir sur la terre, prêcher cette bonne nouvelle à toutes les nations. Alors viendra la fin, comme Jésus l'a dit. M. Armstrong nous a dit plusieurs fois, et l'a encore répété lors de son dernier conseil des anciens, où j'étais présent, quelques jours avant sa mort, tout comme il l'avait écrit dans son autobiographie, il disait, « Le plus gros travail de l'Église reste à faire. » Voyez-le vous-même. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a dit aussi à plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas être dogmatiques à ce sujet, mais il reconnaissait qu'il est probable que le plus gros travail de l'Église était à venir et est à venir encore. Il a accompli une œuvre extraordinaire. Nous l'avons honoré pour ça. Toutefois, la vaste majorité de l'humanité, en Angleterre, en Europe, partout dans le monde et même ici aux États-Unis, n'a jamais même entendu le nom Herbert Armstrong ou Église universelle de Dieu. Une œuvre plus grande encore reste à faire. Elle sera sans doute complétée par les deux témoins, au-delà de ce que nous pouvons faire. D'ici là, il nous faut poursuivre le travail. Si nous continuons d'accomplir l'œuvre, nous serons bénis à jamais. Ce faisant, nous nous amassons un trésor dans le ciel et Dieu nous récompensera d'avoir fait notre part dans son œuvre. 25 mai 2016. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le livre de Jean, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'était sa raison d'être. Est-ce là votre raison d'être? La raison de votre présence sur terre et de votre appel maintenant, non seulement pour être sauvé, mais pour aider à faire l'œuvre de Dieu. Dieu aurait pu vous appeler plus tard, mais il l'a fait maintenant pour que vous participiez à son œuvre, laquelle porte au monde le message du Christ. Pour que vous fassiez partie de cette équipe. Si nous travaillons tous ensemble, en équipe, pour promouvoir nos émissions de télé, les sites Internet, nos revues, les brochures, le cours de Bible et nos présentations, alors nous pourrons avoir un grand impact sur le monde, sur des milliers d'autres personnes. Des millions de gens recevront le témoignage. Ils sauront au moins qu'il y a un Dieu véritable qui réalise un projet ici-bas. Ils auront cette opportunité à cause de ce que nous aurons fait en donnant de nous-mêmes pour accomplir l'œuvre de Dieu et porter le message du Christ, son vrai gouvernement qui doit être établi. C'est notre message, un message au sujet de ce gouvernement, des valeurs qu'il défend et de ce que cela signifie. Vous serez récompensés éternellement si vous mettez votre cœur dans ce que le Christ accomplit de nos jours, en prenant part avec zèle, foi et courage à l'œuvre de Dieu, maintenant, aujourd'hui même. Thank you. Roderick St. Meredith a terminé sa course. Ceci est une production de l'Église du Dieu vivant.